Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Nous avons le plaisir de retrouver Bertrand Lemoine et pour ceux qui n'auraient pas entendu notre enregistrement précédent, je rappelle qu'il est à la fois ingénieur, architecte et historien, même si ce rappel est extrêmement réducteur par rapport à sa personnalité et aux 43 et même 44 avec l'histoire des gares, ouvrage qu'il a écrit ces dernières années. Alors Bertrand, au fond j'ai compris à travers cet ouvrage que la gare c'est à la fois un lieu de transit, d'embarquement et de débarquement de voyageurs, mais aussi de marchandises, ce qui est fondamentalement différent. C'est aussi une mosaïque de sentiments humains. Le départ, c'est souvent une séparation. L'arrivée, c'est souvent des retrouvailles. Et c'est aussi, notamment, tout particulièrement à partir du Front populaire, le brassage de toutes les classes sociales. Mais enfin, ça avait commencé avant avec les trois classes, dont une était à l'air libre au départ, je crois, si je me souviens bien. Comment la gare peut arriver à combiner, à travers le temps, ces différentes fonctions assez quand même éloignées les unes des autres?
Oui, merci d'abord. Bonjour Bernard, merci de cette invitation pour continuer à reparler de cet ouvrage sur l'histoire des gares en France, un gros ouvrage, dans lequel j'essaie justement de montrer que la gare est à la fois une sorte de typologie architecturale qui se décline petite échelle, grande échelle sur le territoire, qui a pour fonction, en fait, première, et c'est sa raison d'être en quelque sorte, que d'assurer l'interface entre un réseau ferré, de trains tirés par des locomotives, donc, qui va circuler ensuite sur le territoire à grande échelle, et une localité, une ville, un territoire. Et donc, c'est l'interface, ça permet d'embarquer dans le train. Donc, faire les formalités nécessaires d'enregistrement des bagages, de prendre ses billets, d'attendre aussi le train, parce qu'on arrive toujours en avance, et puis de sortir du train, ensuite pour rejoindre la ville. Donc, il y a cette première fonction, qui est d'ailleurs traduite dans l'architecture des gares par des ensembles de dispositifs spatiaux, hall d'accueil ou vestibule d'accueil, qui va d'ailleurs petit à petit se dilater, prendre beaucoup plus d'importance au fil des années. Enregistrement des bagages, service des billets, bagages aussi qui sont enregistrés directement à grande vitesse, et puis service des marchandises, qui sont en fait des halles, même dans les toutes petites gares, la halle à marchandises, avec sa petite gare de marchandises accolée à la gare, est un fait classique, parce que le train transporte à la fois des voyageurs et puis des biens, des produits. Donc cette interface, elle génère une typologie particulière qui associe aussi une notion de service à une notion de confort. Les voyageurs sont très tôt abrités, même dans des gares de moyenne importance ou de petite importance, par des abris sur le quai, par des halles plus ou moins grandes, qui peuvent être très grandes, monumentales, même dans le cas des grandes gares, qui vont permettre de prendre, de monter et de descendre dans le train à l'abri de la pluie, donc de conserver, en fait, une fois qu'on est rentré dans la gare, une certaine idée de confort. Et donc, ce moyen de transport de masse, et c'est ça peut-être sa caractéristique aussi, de collectif d'abord, qui transporte des foules en fait, qui va se développer à très grande échelle sur le territoire, va transporter des millions, des centaines de millions au fil des ans. Et il va mettre en mouvement en quelque sorte des foules, il va mettre en mouvement une population, y compris jusqu'aux plus petits territoires ruraux qui vont se trouver tout de même relativement bien desservis par des gares, y compris des petites gares de chemin de fer d'intérêt locaux. Donc il y a une espèce de ramification du réseau qui permet à tout un ensemble, une population très importante, de prendre la gare. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a pris le train, au moins une fois dans sa vie. Pratiquement, et même au 19e siècle, on sortait peut-être jamais de sa campagne ou une fois dans sa vie. Quand on en sortait, c'est peut-être pour aller prendre le train pour aller à la ville voisine. Donc il y a un moyen de transport extrêmement familier et qui donc touche à l'intimité de chacun, tout à la façon de voyager. Le voyage, c'est toujours un peu une rupture, un inconnu, une certaine angoisse déjà de rater, de pas arriver à l'heure pour le train, de quitter ses proches, le transport, on arrive dans un inconnu. Donc il y a une dimension psychologique très forte dans le voyage, qui est incarnée par la gare. Et la gare est là aussi pour rassurer le voyageur. Pour lui dire, vous rentrez dans un bâtiment, regardez, c'est bien organisé, il y a un vestibule, on vous accueille, vous êtes ensuite à l'abri sur le quai, ensuite vous serez assis en première, deuxième, troisième classe, éventuellement troisième classe qui est effectivement à l'air libre tout au début. Vous êtes, voilà, on vous accompagne, je ne sais pas que vous êtes choyé, mais en tous les cas, vous êtes traité, accueilli. Et cette fonction d'accueil de la gare qui permet aux voyageurs de rassurer, elle trouve sa traduction architecturale dans ces bâtiments, qui eux-mêmes, dans la ville, se situe comme une porte d'entrée des villes. Et les gares ayant été construites à l'extérieur des villes, pour la plupart, dans la plupart des cas, l'enjeu va être de les rattacher à la ville. La rue de la gare, en face de la gare, l'hôtel de la gare, ou le café de la gare, en face, sur la place de la gare, qui vient jouxer et faire l'interface entre la ville, l'espace urbain et l'espace du chemin de fer. Tout ça, ce sont des sortes d'aménités qui montrent que la gare se relie, en quelque sorte, à la ville, devient, même si c'est une typologie nouvelle, évidemment, en antiquité, on n'avait pas de gare, on les a que depuis les années 1837, en France, en tous les cas, 1830 en Angleterre, eh bien, on a ce nouveau dispositif qui complète la ville, qui apporte une modernité, la modernité du chemin de fer, la modernité du voyage, de la rapidité de déplacement entre les différentes parties du territoire. Et cette modernité, elle s'intègre tout de même à l'espace urbain, au point que la gare devient un monument, au fond, de la ville, je dirais presque comme un autre, comme, au même titre que l'hôtel de ville, ou que le marché couvert, ou que
la cathédrale.
Ou que la cathédrale, ou l'église même, bien sûr.
Mais inversement, à partir du moment où la ville se développe, s'étend et donc rattrape la gare et la recentre, si j'ose dire, et à partir du moment où parallèlement le réseau se développe, les emprises ferroviaires vont elles-mêmes rester très importantes et être peut-être de plus en plus importantes. Il y a même eu un moment, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, où on était étonné de découvrir qu'au fond, il y avait tellement d'emprises ferroviaires dont certaines pouvaient devenir des friches ferroviaires et donc des emprises foncières. Et aussi donc des coupures dans la ville et des cassures dans la ville et des séparations pas très faciles à traverser par des ponts, par-ci, par-là, etc.
Oui, la gare, c'est pas seulement ce qu'on appelle dans le jargon ferroviaire le bâtiment voyageur, le BV, une abréviation dans les chemins de fer. Le bâtiment voyageur, c'est le lieu évidemment public, le lieu d'interface du public avec le chemin de fer. Mais derrière le bâtiment voyageur, il y a la gare de marchandises, déjà, bien sûr, la marchandise de petite vitesse qu'on vient livrer directement dans une halle dédiée, les marchandises qui sont embarquées dans les trains. Et puis, c'est beaucoup d'installations techniques, de maintenance. Une locomotive à vapeur, elle a besoin d'eau pour remplir, parce qu'elle consomme de la vapeur, de charbon. Quelques dizaines de kilomètres, il faut la remplir à nouveau, donc ou changer de locomotive. Et puis il y a besoin d'un entretien un peu plus approfondi. Donc dans les villes moyennes ou grandes, il y a tout un ensemble d'installations techniques, d'ateliers. On va pouvoir vider la cuve des cendres, on va pouvoir entretenir les machines qui sont quand même assez complexes. Donc en fait, petit à petit, se développent des faisceaux ferroviaires beaucoup plus larges que la gare, souvent en amont ou en aval de la gare, à proximité bien sûr, et qui vont occuper des emprises territoriales très importantes. On peut le faire parce que, à l'époque, le terrain, quand on établit les chemins de fer au milieu du 19e siècle, les terrains sont encore là, disponibles, rattrapés par l'urbanisation. Et ces terrains vont occasionner, vont générer des coupures, effectivement, entre des parties de la ville, parce qu'ils sont, les faisceaux ferroviaires sont relativement larges. Déjà, au niveau de la gare elle-même, souvent la gare est établie d'un côté de la ville, côté ville. De l'autre côté, et bien sûr, on est presque dans la campagne, déjà dans les faubourgs. Il faut pouvoir même traverser les voies. On va apparaître des passerelles, puis des passages souterrains. En France, les gares sont plutôt au niveau du sol. En Allemagne, les gares seront surélevées, par exemple, pour permettre de passer dessous plus facilement. Donc, on a cette coupure urbaine qui est générée par les chemins de fer et générée par ces emprises ferroviaires. Bon, dont on voit aujourd'hui qu'effectivement, elles pourraient être optimisées, réduites, etc. Parce que, évidemment, le foncier qu'elles occupent est devenu beaucoup plus central et soulève, évidemment, quelques appétits parce que c'est un foncier bien situé et qui peut-être on peut mieux utiliser que ce qu'on faisait au XIXe siècle.
Alors, parler de ces emprises, c'est comprendre que la culture ferroviaire, au fond, c'était plutôt celle des voies, des équipements, du matériel roulant, etc. Et pourtant, la gare est aussi un laboratoire d'avancées majeures, par exemple dans l'usage de la fonte, de l'acier, du verre, par rapport à l'architecture de ces 150 à 200 dernières années.
Oui, il y a une technicité d'abord dans le chemin de fer, à la fois dans les locomotives, qui sont des grosses machines quand même complexes, et puis dans toute la gestion du réseau, la signalisation, etc., ce qui fait que les ingénieurs vont s'investir fortement. Il y aura des cours de chemin de fer à l'école des ponts et chaussées, à l'école centrale, par exemple. Donc les ingénieurs, même de plus haut niveau, apprennent à concevoir, à gérer les réseaux. Et cette technicité, elle va se retrouver dans une culture technique très forte, d'ailleurs. Culture de la sécurité, encore aujourd'hui, quand un accident de chemin de fer avec un mort, c'est un événement, alors que bon, sur la route, il y en a 3000 fois plus par an peut-être. Donc c'est resté très fort, et c'est bien d'ailleurs, il ne faut pas le nier. Culture de la ponctualité. C'est d'ailleurs le chemin de fer qui permet d'unifier l'heure à l'échelle du territoire national, parce qu'évidemment, il ne faut pas que l'heure de Paris et l'heure de Strasbourg soient différentes, ce qui était le cas, en fait, au début, avant les chemins de fer. Donc il faut que l'heure soit unifiée pour que les trains soient bien synchronisés. Et donc, culture forte, qui est une culture d'ingénieur, dans laquelle la gare, qui est un bâtiment architectural, va être à la fois conçue sur son plan général, sur son implantation, sur son urbanisme même, par les ingénieurs. Et puis, bien sûr, les architectes vont être sollicités pour définir l'architecture même des bâtiments, y compris à la fois dans des typologies répétitives et puis dans des bâtiments qui peuvent être des bâtiments beaucoup plus singuliers, monumentaux, suivant l'importance de la ville. Et donc, ces architectes et ces ingénieurs qui vont travailler comme de concert vont utiliser à la fois des références architecturales, y compris classiques ou après modernes ou régionalistes, même dans certains cas, et puis en même temps doter la gare de perfectionnement technique. Ces grandes halles vitrées, qui sont des grandes couvertures, structures métalliques en fer, qui utilisent du verre pour avoir cette transparence, cette lumière naturelle jusqu'au quai, ces grandes halles métalliques vont être un des laboratoires de la construction métallique et des progrès constructifs en France. Et aujourd'hui encore, on a des très beaux exemples, hein, bien sûr, de ces grandes halles qui restent des monuments qui ont 150 ans d'âge ou 100 ans d'âge, mais dont on voit effectivement la modernité qu'elles apportent en termes de grand espace couvert, de fluidité de l'espace, d'ouverture, de transparence, de lumière. Donc on retrouve en fait toutes les canons d'architecture moderne déjà exprimés dans ces grandes halles du 19e siècle qui sont caractéristiques des gares.
Avec une structure portante en fonte très fine, très légère, étonnamment légère.
Des colonnes en fonte permettent de supporter des charges verticales, et on peut les faire extrêmement fines, beaucoup plus fines qu'un pilier en maçonnerie par exemple, ou une halle en bois qui était les toutes premières halles étaient en bois. Halle en bois, c'est une section un peu plus importante. Donc avec la fonte pour les piliers, le fer pour les charpentes, eh bien on a des charpentes extrêmement légères, transparentes, qui justement la finesse des piliers, par exemple, n'obère pas le regard. On peut voir l'ensemble de la gare. Un bel exemple, c'est les piliers de la gare du Nord, qui ont été d'ailleurs fondus en Écosse. C'était une technologie un peu pointue. Et même en 1860, la France n'était pas capable d'avoir fondre des colonnes aussi fines, aussi élancées. Donc, transfert aussi de technologie entre l'Angleterre et la France. Beaucoup d'ingénieurs anglais vont travailler en France, d'ailleurs, pour le développement des chemins de fer. Et puis ensuite, à l'échelle européenne, bien sûr, avec les Allemands, etc., les États-Unis. Donc, il y a une espèce de culture technique et architecturale. Et une culture tout simplement qui sur les chemins de fer qui s'échange avec des modes locaux, y compris des modes constructifs un peu différents. Beaucoup de gares en Angleterre qui sont des grandes fermes cintrées. En France, on est plutôt des fermes avec ou des charpentes avec des pans obliques. Voilà. Donc on trouve des variétés comme ça d'un pays à l'autre. Et ce qu'on constate, ce qui est intéressant, c'est que les chemins de fer se sont répandus dans le monde entier. On a des gares très différentes d'un pays à l'autre, mais en même temps, on reconnaît tout de suite une gare. Donc il y a une espèce de chose commune par sa position urbaine, par son architecture, par l'interface qu'elle fait avec les voies. On reconnaît cette typologie tout à fait caractéristique.
Cette rencontre, ce travail commun, ingénieur-architecte, au fond, ça donne un certain style ferroviaire.
Voilà, ce qui est intéressant dans les gares, c'est que cette typologie de masse, 5 milliards construites, elles sont à la fois construites par série, c'est-à-dire que les compagnies vont se doter de certains styles avec des bureaux d'architecture intégrés, et donc vont décliner en fait des gares sur des types, type 1, type 2, type 3, le type va être défini en fonction de l'importance projetée de la gare, du public qui va utiliser la gare. La plupart des gares vont être modifiées, vont être étendues, on peut rajouter, prolonger une aile, deux ailes. Donc on a quand même des lectures assez précis. Par exemple, les gares du réseau Nord, au début, c'est plutôt deux pavillons d'extrémité reliés par un bâtiment horizontal, éventuellement un petit pavillon central. Les gares du réseau du Midi sont plutôt des gares très horizontales avec des arcades. Les gares du réseau du PLM, du Paris-Lyon-Marseille, plutôt des bâtiments assez néoclassiques. Donc on trouve en fait à la fois une déclinaison dans les types, notamment pour les petites gares, mais très vite, les compagnies vont investir, voire surinvestir, on pourrait même penser, dans des architectures beaucoup plus monumentales, qui sont là aussi pour signifier l'importance de ces compagnies, l'importance du chemin de fer, pour attirer le voyageur, pour faire que la gare devienne un véritable monument et pas simplement un petit bâtiment fonctionnel au fin fond de la ville. Et donc on a, dans les grandes villes, y compris dans des villes plus moyennes, des gares beaucoup plus monumentales qui se développent, notamment fin 19e, début 20e siècle, avec des gares parfois conçues dans les années 1910 et construites dans les années 1920, comme Limoges, par exemple, ou La Rochelle, des grandes gares aussi qui sont avec ce monumentalisme des années 1900. Et même après, on retrouve, par exemple, même dans les gares TGV contemporaines, les gares, par exemple, du réseau Lyon-Marseille, Avignon... Aix et Valence, on retrouve des gares qui ont une certaine monumentalité architecturale qui expriment aussi, dans leur, même si elles sont un peu isolées au milieu de leur parking en race campagne, elles expriment quelque chose, elles expriment le fait qu'on arrive quelque part et que prendre le train, c'est un acte symbolique qui se fait à travers une médiation architecturale qui peut être relativement monumentale. Le monument là n'est pas là pour rappeler un souvenir, mais là pour exprimer en quelque sorte magnifier l'acte de prendre le train, de voyager.
Et ça a été longtemps, je ne sais pas si ça l'est encore, accompagné d'une iconographie spécifique.
Oui, la gare exprime à la fois sa fonction par sa typologie, donc entrée par le vestibule, des ailes qui sont plutôt pour les services, puis le vestibule fait l'interface avec le train, voire la halle qui se trouve derrière. En même temps, la gare... doit inviter au voyage, alors elle indique une première chose d'abord, et toutes les gares le long, c'est l'heure, une horloge. Quand vous prenez le train, vous êtes stressé, vous regardez si votre train, vous êtes arrivé à suffisamment d'avance. Donc l'heure est toujours indiquée en façade, et donc le thème de l'horloge se retrouve dans absolument toutes les gares, sans exception. Ensuite, à l'intérieur, suivant l'importance de la gare, bien sûr, et suivant la destination des gares, on va vous offrir aussi une iconographie, dessinée, peinte, sculptée, qui est en rapport avec la gare qu'on veut magnifier. Gare de Lyon, il y a toute une fresque sur la grande salle des pas perdus qui montre en fait les différentes destinations desservies par la ligne jusqu'à Menton, qui permet en fait d'inviter au voyage le voyageur. D'autres gares expriment aussi, notamment les gares construites par les Allemands entre 1870 et 1918, des gares qui ont parfois une certaine monumentalité, comme la gare de Metz, par exemple, où la gare va être le support d'une expression allemande nationaliste, on va dire, avec la figure de Guillaume II qui représentait Charlemagne, qui est convoqué, etc., pour trôner sur une grande fresque. Voilà, pour montrer que les attributs iconographiques, décoratifs, ornementaux de la gare contribuent aussi à son expression comme un monument de la cité, même du pays. Et cette... tendance aussi à montrer les plans des villes, par exemple, quand on arrive au Havre, quand on arrive à Deauville, on a le plan de la ville, etc. Ça, ce sont des gares beaucoup plus récentes. Cette tradition s'est maintenue parce que une iconographie propose en fait aux voyageurs déjà une sorte d'invitation au voyage, anticipe en quelque sorte sur son voyage, le conforte sur le fait qu'il va trouver au bout de son voyage des destinations auxquelles il aspire à parvenir.
Eh bien, en ces deux conversations... je pense que nous avons évoqué à peu près 0,1% de cette véritable somme qu'est l'histoire des gares en France, dont vous pourrez trouver les références par écrit accompagnant ces deux entretiens. Merci Bertrand.
Merci beaucoup Bernard.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.